They're gonna show you now exactly how jazz music is made. Yes. Jesus, what?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Le roman du jazz, dernier épisode. Red Jazz, le jazz chez les rouges. Le nazisme attribuait le jazz à la lourde sensualité nègre et à la lâche sensualité juive, à moins que ce ne fût l'inverse. Les staliniens, qui n'appréciaient pas davantage la sexualité débridée, étaient tentés par d'autres associations idéologiques. Comment, se demandait-il, pareille musique avait-elle pu naître d'une culture populaire? N'était-elle pas clairement passée sous influence capitaliste? Selon les périodes, le pouvoir fut tantôt patelin, tantôt hostile. Le chef de musique Rosner fut ainsi envoyé au goulag, mais autorisé à constituer un orchestre pendant qu'à Moscou, on interdisait un morceau de Prokofiev parce qu'il nécessitait un saxo. Au total, en 1971, quand Duke Ellington put venir en visite à Moscou, les musiciens qu'il avait dénoncés comme bourgeois le recevaient sincèrement comme l'enfant prodigue qu'ils avaient attendu toute leur vie. Philippe Kimplowitz, bonjour.
Bonjour.
Dans votre roman du jazz chez Fayard, point de chapitre consacré ni à l'Union soviétique ni à l'Europe de l'Est, et vous avez créer tout à trac ce nouveau concept, Red Jazz. Ça vous est venu comme ça?
Oui, c'est les rouges, le jazz, ça existait.
Vous auriez été, dans votre jeunesse qui remonte à...
Quelques mois.
Non, vous auriez été, il y a quelques années, quand il y avait un impitoyable rideau de fer, de l'autre côté du rideau de fer, vous auriez écouté le jazz.
Oui.
Sur Voice of America, sur Radio Free Europe.
Assurément. Quand on a grandi dans un pays de l'Est, derrière le rideau de fer, dans un pays socialiste, et qu'on était légèrement friand, désireux de connaître autre chose, l'écoute de Radio Free Europe et de Voice of America, et notamment de l'émission de Willis Conover, Jazz Hour, était un must. Tout le monde l'écoutait, et j'ai un exemple, mais parmi d'autres, Vladimir Kosma, musicien, compositeur, a découvert le jazz la nuit en écoutant ce genre d'émission et en recopiant à la chandelle les arrangements des orchestres qu'on écoutait clandestinement.
Les plus contemporains de nos auditeurs vont nous reprocher de ne pas avoir été assez loin dans l'actualité du jazz sur les radios destinées depuis Munich, depuis le financement américain aussi, au monde communiste, le jazz le plus moderne voisinait avec le rock, ils étaient à égalité, ils se chevauchaient, le rock n'a pas éclipsé le jazz.
C'est-à-dire, si d'une certaine manière, comme musique populaire au sens musique de masse, oui, assurément, hein, ça, sans aucun doute. Mais en tout cas, il y a une association profonde, jazz, États-Unis et pays de l'Est, en tout cas jusqu'à la fin des années 60, hein, c'est-à-dire jusqu'au moment où, outre les émissions, des grands musiciens comme Benny Goodman viennent à Moscou, Dave Brubeck vient à Bucarest, et cette venue de la rosée américaine était vécue comme, allez, je continue sur la métaphore, comme une aurore par les jeunes gens. Et si vous me permettez un souvenir personnel, j'étais au festival de Jazz Jamboree à Varsovie avant 89, et c'était un moment absolument extraordinaire. La salle du Palais de la Culture était remplie. Ce moment-là était un grand moment de respiration.
Et puis quelle longue histoire à explorer. Il y a eu jeu de yo-yo, tantôt de l'hostilité, tantôt de la tolérance. Les premières salves anti-jazz, elles viennent, c'est un peu étonnant, de quelqu'un comme Maxime Gorki, dans un article qui a fait date, alors on est dans les années 20 au début,
oui,
sur la musique grossière, il explique que le jazz joué dans les somptueux salons des hôtels internationaux exhale, Philippe Gimplowitz, une sexualité débridée.
Oui, sexualité débridée, et puis il y en a un autre, Lunacharsky, commissaire politique.
À l'instruction publique.
Oui, à l'instruction publique, qu'on a peut-être lu dans notre jeunesse, édité chez Maspero, disait que le jazz était une tentative délibérée du capitalisme pour faire vivre l'homme au travers de ses organes sexuels, afin que dans ses moments de loisir, il soit absorbé par cet aspect de l'existence et qu'il oublie quoi naturellement ?
La lutte des classes.
La lutte des classes, évidemment. Oui, voilà, on a bien appris notre leçon. Et la vision du jazz change selon le gel et le dégel en Union soviétique. Donc, au moment de la NEP, le jazz et
la nouvelle politique économique.
Nouvelle politique économique, oui. Donc un moment où Lénine restaure ou enfin des bribes d'économie de marché, le jazz est perçu à ce moment-là comme un mouvement d'avant-garde. C'est de ce côté-là comme un mouvement futuriste, après tout. Et aussi, il est également perçu comme la musique des dominés, des dominants, donc la musique des Noirs américains. C'est très important, hein, la musique des dominés et des dominants. Et puis, dès que ça se resserre, c'est évidemment, le jazz redevient la musique de l'Occident en putréfaction, de l'Occident pourri, de l'Occident vautré dans son égoïsme.
Alors, le jeu de yo-yo permettra un petit peu plus tard de revenir à la possibilité d'enregistrer. Vous présentez le nom, je vous laisse le prononcer, grand chef de musique de jazz que nous allons évoquer.
Non, je vous remercie pour la politesse, Jean, mais on avait dit que c'était vous.
Alexander Sussman.
Sussman.
Выйдешь и встретишь у моста, тронешь рукою за плечо, просто так, просто так. И печали мигом чались, и на свете только улыбка твоя. Гаснут повсюду фонари, поздний трамвай уходит в парк. Бродим с тобою до зари, просто так, просто так, просто так.
Ah, et oui, c'est une musique, celle-là.
Vous me rappelez le nom de l'artiste?
Alexandre Tsafman. Voilà. Alors, Tsafman, c'est un juif ukrainien. Il a été élève au conservatoire de Moscou chez un grand professeur, Blumenfeld. Et il a été aussi, en Union soviétique, le premier à jouer dans la saison 34-35, donc avant la grande terreur, la Rhapsody in Blue de Gershwin. Il a même écrit un concerto pour piano et jazz band. Et là, le morceau que l'on vient d'entendre est un morceau ultérieur, donc avec un quatuor vocal. Et on est dans cet entre-deux du jazz qu'on retrouvera beaucoup dans les pays de l'Est. Jazz et musique légère, jazz et musique un peu de variété. Je crois qu'en Roumanie, on appelle ça, les auditeurs roumains me pardonneront, musica de estrada, hein, la musique de la rue. Donc une musique très très plaisante. Et ces musiciens se balancent entre le jazz puriste, là encore, et un jazz plaisant.
Mais il y a aussi un autre entre deux, c'est celui qui joint la musique de jazz et la grande musique symphonique. Shostakovich, par exemple, appréciait Sussman.
Ah oui, parce que il était très connu, très très virtuose, excellent pianiste. Et là, évidemment, avec Shostakovich, on retrouve toute l'ambiguïté du compositeur soviétique, y compris d'ailleurs par rapport au jazz.
Alors ça, c'est une pièce de Shostakovich qui est une pièce
Tout est pour deux. C'est un arrangement sur une comédie musicale, Nono Nanette, Vincent Humans. Les musiciens font leur gamme en orchestrant. Et Shostakovich, je ne sais pas en quelle année il a écrit ça. Hein,
mais 41, je crois.
41, ben voilà, justement. Donc c'est pendant l'alliance avec Oncle Sam.
Et oui, les États-Unis apportent du matériel de guerre à l'Union soviétique. Ils vont bientôt être des alliés dans la grande guerre patriotique. puristes diront que ce n'est ni du jazz, ni de la musique savante.
Oui, c'est rien, oui, effectivement. En tout cas, c'est un exercice assez scolaire et assez laborieux. Serait-il signé Shostakovitch ?
Oh, il s'est essayé à tellement d'exercices d'impureté et de virtuosité, alors que notre ami Tsassman, le premier des grands jazzmen de l'Est que nous citons, lui, avait la réputation d'avoir du cran. Il se promenait dans Moscou avec un costume taillé sur mesure. Il était extrêmement élégant. Il avait un chapeau américain sur la tête.
Oui, oui. Et le cran, il se manifestait d'une autre manière dans tout le débat dont on reparlera peut-être là sur le jazz et musique populaire du coin. Musique populaire du terroir, enfin musique populaire de Russie, là, en l'occurrence. Eh bien, Tsafman, lui, avait délibérément choisi la voie contraire. Il se voulait un jazzman universel, un peu comme pourrait dire René Urtreger aujourd'hui. Moi, je joue du jazz américain.
Deuxième personnage, transfrontière, puisqu'il commence sa vie en Pologne, qu'il lui arrive de participer à des concours venu de son pays, la Pologne, qui se tiennent aux États-Unis avec le permanent de la série, Louis Armstrong. Ce personnage, ce deuxième personnage, c'est Rosner.
À l'âge de 19 ans, mon père a fait un voyage aux États-Unis. Il y a eu là-bas une espèce de concours, un concours auquel ont participé des trompettistes du monde entier. Et Armstrong y a eu le premier prix, et mon père le second. Et c'est en fait une des raisons pour lesquelles mon père est ensuite parti faire une tournée mondiale, car les gens savaient qu'il était ce jeune trompettiste. Il était vraiment tout jeune. C'est lui qui avait eu le deuxième prix derrière Armstrong. J'ai d'ailleurs vu la photo que Louis Armstrong lui a donnée, avec en dédicace les mots à Eddie Rosner le noir de la part d'Armstrong le blanc, ce qui voulait dire « nous sommes pareils ».
Eddie Rosner, dans cette terrible avant-guerre, avait été à la bonne place, considéré comme noir par Armstrong et aux États-Unis. Mais c'était assez rare qu'il fût à la bonne place.
Oui, c'était assez rare. Oui, son itinéraire a été restitué par Pierre-Henri Salfati dans un film qui a à peu près une dizaine d'années.
Jazzman au Goulag, dont on va entendre plusieurs extraits.
Et Eddie Rosner avait ce talent le talent de l'homme qui n'est pas là où il faut. En Allemagne, quand il ne fallait pas l'être, puis après en Biélorussie. D'une certaine manière, c'est un personnage du théâtre juif, du théâtre yiddish. Autre yo-yo pour lui, des grands moments de gloire, des moments de grande détresse. Et surtout, comme vous le dites, c'est un passeur. Passeur étonnant. En Allemagne, il est dans le groupe vedette de l'époque, trompettiste, et en 1933, au moment où évidemment Hitler arrive au pouvoir, le groupe se maintient tant qu'il peut. Les trois ariens du groupe maintiennent le nom du groupe. Lui reste un peu, puis finalement il décide de retourner en Pologne. Et quand décide-t-il de retourner en Pologne ? Évidemment, au moment où l'Allemagne nazie l'envahit.
Et là, il va falloir choisir entre deux inconvénients, 1940. Toujours un extrait du film de Salfati.
Qu'en train de fuir Varsovie, déguisé en officier de la Wehrmacht, je parviens, le 15 octobre 1939, à nous faire franchir les lignes allemandes. Nous rejoignîmes la ville de Bialystok, libérée par l'armée rouge. C'est là que nous fûmes découverts par Pantelimon Ponomarenko, premier secrétaire du Parti communiste biélorusse, amateur de jazz, qui me proposa de fonder un ensemble de musique de variété auquel serait conféré le titre d'orchestre national de jazz de Biélorussie, sous la direction et avec la participation d'Eddie Rosner. « La première eut lieu au Grand Théâtre de Minsk au printemps 1940. Une première consécration officielle. Après cette soirée mémorable, on fut invité à Leningrad, puis à Moscou. C'est à cette époque que je changeai mon nom de Adolphe en Eddie. Les gens apprirent à me connaître sous ce nom-là. Eddie Osner.
C'est judicieux de ne plus s'appeler Adolphe.
Oui, je vous ai dit, il a tous les talents, il s'appelle Adolphe en plus.
Oui. Mais ça se passe bien, donc au début, on est à peu près à la même époque que vous évoquiez tout à l'heure à propos de Chostakovitch.
Oui, exactement. Oui, ça se passe merveilleusement bien pour lui, parce que l'alliance avec les États-Unis s'annonce. Comme vous le dites, c'est la grande guerre patriotique. Et par ailleurs, on a la Russie soviétique a besoin de l'argent des Juifs américains. Donc là, il y a plusieurs choses qui se jouent et qui se conjuguent à ce moment-là. Il y a les comédiens du théâtre yiddish de Moscou qui vont faire des tournées aux États-Unis, etc. Et donc, le jazz redevient grata. Et ce qui est curieux quand on écoute, c'est que la musique d'Eddie Rosner, bon, c'est un excellent trompettiste, c'est un très bon professionnel, un excellent artisan. C'est pas un immensissime musicien, c'est pas un grand créateur. On se retrouve toujours, vous aviez parlé tout à l'heure d'impureté, dans cette musique qui fait un peu Grand Hôtel de Varsovie ou de Bucarest, vous voyez, avec des lustres un peu sales qui pendent au plafond, des divans un peu défraîchis.
Et des dames qui attendent, à moins que ce ne soit les espionnes. Oui, oui. Dites-moi, à partir de quel moment lui reproche-t-on de s'appeler Eddie? C'est pas très judicieux de Eddie.
Ben oui, justement. Donc,
au moment de la guerre froide.
Voilà. Et ben, c'est au moment de la guerre froide. Vous avez donné la réponse. C'est justement en 46, 47, surtout, lui dit 46, mais je pense que c'est surtout en 47 que les choses vont mal tourner pour lui. Parce que, évidemment, là, à ce moment-là, le jazz redevient la musique détestable des impérialistes yankees.
Direction le goulag.
Les gens étaient complètement sous le charme. C'était comme quelque chose de surnaturel. Un homme pareil dans un tel endroit, dans cet enfer. C'était comme si un rayon de lumière s'était tout d'un coup mis à scintiller. Nous relevions tous la tête. Le monde semblait soudain plus accueillant. Une merveille. Je me souviens qu'il a joué ce soir-là un morceau appelé « Trompette en colère », où la trompette pleure et sanglote. Tantôt elle passe au premier plan, tantôt elle s'efface. Enfin, quelque chose de juif, je crois. Les juifs versent peu de larmes. Et lui, c'est avec sa trompette qu'il exprimait tout ce que nous ressentions. Sans doute pensait-il au ghetto lorsqu'il jouait ainsi. C'était quelque chose de miraculeux. Nous restions tous là, assis, hypnotisé à tel point que quand il a terminé, dans un premier temps, personne n'a applaudi. Silence total. C'était vraiment un orchestre de variété. On jouait ce qu'on avait coutume de chanter à l'époque. Les chansons soviétiques, les chansons patriotiques. On jouait aussi du jazz, mais Eddie Rosner était quelqu'un de très indiscipliné. Il y avait cette chanson, Fumons une clope. Lui en faisait une vraie chanson de jazz, avec toutes ses syncopes. On croyait entendre un authentique jazz band de nègres. D'ailleurs, c'était lui qui écrivait les arrangements pour tous les instruments. Mettre sur pied un orchestre avec des gens qui n'étaient pas des professionnels, il fallait pouvoir le faire. Il l'a fait.
Attendez, je dis direction le goulag et on entend un orchestre. On lui permet de constituer un orchestre dans un camp.
Oui, il est connu, il est même célèbre, et il y a une vie culturelle, c'est ce que montre le film de Pierre-Henri Selfati, il y a une vie culturelle à Magadan. Le chef du camp aime la musique, pour le coup c'est comparable aussi avec les camps nazis, où il y avait également une vie...
Certains
camps nazis, oui bien sûr. Une vie culturelle. Mais là ce qui arrive à Eddie Rosner, ex-Adolphe, en 47, c'est d'être rangé dans la catégorie des cosmopolites, avec son jazz. Sa musique est américaine, il est juif, et donc il est jugé comme non soviétique, c'est-à-dire incapable d'exprimer la grandeur ou la spécificité ou la singularité de l'âme russe. Et il y a toute une question qui préoccupe l'Union des compositeurs pendant 25 ans, l'Union des compositeurs soviétiques, c'était est-ce qu'on est capable de créer une musique populaire moderne, qui soit soviétique, qui corresponde à nos racines populaires. Et il y a un nommé Krenikov qui a eu cette phrase extraordinaire. Pour lui, le problème pouvait se résoudre très très facilement. Il disait « Nos compositeurs sont bien arrivés à développer une valse russe distincte de la valse viennoise. Pourquoi ne ferait-on pas pareil avec le jazz ?»
On reviendra à cette question fondamentale. Un mot quand même du destin ensuite de Rosner, et il va, après sa libération du goulag, finir par quitter l'Union soviétique.
C'est le drame de toutes ces populations, les gens des camps. Il va demander à être réhabilité d'abord. Il y a vraiment ce besoin de demander de la part des nouvelles autorités soviétiques. Donc Staline meurt en 53. Après 56, c'est Khrouchtchev. Réhabilitation, je ne suis pas un traître, j'ai jamais failli à la patrie soviétique. Et ce qui est très curieux dans sa vie, c'est que la nostalgie, le désir de retour au pays natal, ça ne sera pas la Pologne, ça sera l'Allemagne. Et il va retourner en Allemagne, où il va mourir en 1976. Il aura demandé par ailleurs, enfin il vit dans une extrême pauvreté, il demande à recevoir une pension en tant que victime du nazisme. Bon, enfin, il aurait été inutile de demander une pension de victime du stalinisme vu l'état de l'économie soviétique. Et cette pension lui est finalement accordée le jour d'après sa mort.
La même question sur la culture populaire et le jazz se pose dans pratiquement tous les pays de l'Europe communiste, où on est extrêmement intéressé par la culture régionale, par ce qu'on appellerait le folklore. Je pense à la Roumanie, par exemple, à laquelle une de vos étudiantes a consacré tout un mémoire. Le jazz en Roumanie, ça a existé.
C'est pas une de mes étudiantes, c'est une étudiante de Didier Francfort, elle s'appelle Juliette Cordel, et elle a fait effectivement son mémoire sur le jazz en Roumanie, où on retrouve effectivement toujours cette espèce de bizarreté. Que faire avec cette musique, qui est une musique à la fois noire, populaire, mais qui n'est pas la nôtre? Et c'est très curieux aussi, parce qu'il y a, le roman qui rend célèbre Milan Kundera, La plaisanterie, parle de ce thème avec l'orchestre du nommé Jaroslav, qui est un orchestre de morave, de musique populaire, et qui décide, pour se mettre au goût du jour, 53-54, donc après la mort de Staline, d'aménager cette musique morave avec des atours, sous des atours, de l'arranger avec les signes extérieurs du jazz. Et Kundera le déplore, et il a raison de le déplorer, il se dit mais quelque chose a été perdu là. C'est-à-dire que c'est une mission impossible en fait, cette tentative d'enraciner le jazz, pas à l'endroit où il l'est.
Cosma Théodore, mort l'année passée, à 103 ans, avait-il participé de cette tentative? On parlait de la Roumanie. Il participait en 1957 au Festival international de la jeunesse, c'était à Moscou, j'imagine.
Oui, c'était à Moscou, Festival international de la jeunesse.
Vous parliez du jamboré de Varsovie, jazz.
Alors le festival de jamboré, c'est 55, 57, c'est Moscou, c'est la grande ouverture, la grande ouverture de l'Union soviétique. Théodore Cosma a dirigé l'orchestre de jazz de la radio roumaine avant qu'avec son fils, on leur demande gentiment de partir en remboursant la somme qui a été nécessaire à la formation musicale du fils. Le fils, c'est Vladimir Cosma. Et on parlait tout à l'heure de Radio Free Europe et des émissions Écouter la nuit. L'arrangement de ce morceau a été écrit par Vladimir Kosma, âgé de 15-16 ans, repiquant les manières de faire. Et là, on entend du jazz cool, du jazz de Gil Evans.
Dites-moi, la question que Kosma, que Rosner pose, elle peut se poser dans tous les pays, pas seulement dans les pays à influence communiste. Je vous offre l'occasion d'une péroraison à l'issue de cette longue semaine. Philippe Gimplowitz, peut-il y avoir des jazz nationaux ?
Non, je crois pas. Il peut y avoir toutes sortes de jazz. N'importe comment, le jazz, depuis une quarantaine d'années, depuis John Coltrane, depuis Miles Davis, a énormément évolué. Il n'est plus directement afro-américain, il l'est encore un peu, c'est une branche. Il y a une tradition conservée de ce type de jazz. Dave Douglas, il y a des tas de musiciens qui ont gardé du jazz, simplement une manière de s'approprier tout type de musique en grande liberté. Si on peut parler du leg du jazz à la musique du XXe siècle, on peut dire certes le rock'n'roll, certes il a ensemencé la musique populaire, mais par ailleurs, je dirais que c'est deux choses. Bon, d'abord un humour dans la vie de tous les jours, une manière de voir le monde qui est une manière... On n'en a pas parlé pour aujourd'hui, mais c'est face au totalitarisme, face au conformisme, face à toutes les habitudes rigides, contraintes, le jazz est un remède, c'est une bouffée d'air pur.
Arcane 5, c'est la formation de jazz dans laquelle joue Philippe Gimplowitz, et ils vont nous interpréter coup sur coup Lady Be Good et Footprints.
Grâce soit rendue à Bernard Pivot, vous présentiez apostrophe en 88 un de vos précédents livres, Les Travaux d'Orphée, d'avoir conservé ce grand morceau. Vous allez nous dire qu'on peut parler dessus.
Oui, on peut tout à fait parler dessus, mais moi j'étais pas d'accord.
C'est une mauvaise illustration de votre péroraison.
De la grandeur du jazz tout d'abord. Et ensuite, j'étais pas prévenu. Voilà, une surprise.
Malheureuse.
Oui, enfin, inattendue. Oui, une surprise tout court.
Laquelle était due à Marie Casanova qui a réalisé cette série à la technique. Yann Bouillot, la préparation, Caroline Gravert, Camille Poux-Jalaguier, Frédéric Martin, Franck Olivard. Et vous allez vouloir présenter en symétrique les musiciens du groupe.
Mais oui, ce sont mes frères. Je peux pas ne pas les présenter. Je suis pris sur le fait. Donc voilà, Yuval Michel-Macher, Nano Pellet et Michel Solnier. Et Bruno Girard.
Merci à vous, Philippe Gimplowitz.
Merci beaucoup.
Merci Jean Lebrun. Nouvelle diffusion de La Marche de l'Histoire. Ce sera lundi avec une série sur l'histoire autrement. Et lundi, son invité sera Isabelle Vera Masson, qui est directrice de recherche au CNRS, une émission sur l'histoire à la télévision.